Albert Robida, La vie électrique. Deuxième partie, chapitre 1. Êtes-vous brouillé ? Demanda Philox Loris lorsque son fils se présenta devant lui au retour du voyage de fiançailles. Pas le moins du monde, au contraire, je... Vous ne vous êtes pas éprouvé sérieusement ? Vous êtes restés tous les deux, toi surtout, la bouche en cœur, à soupirer des gentillesses. Ce n'est pas ainsi qu'on éprouve celle dont on veut faire la compagne de sa vie. Ce n'est pas loyal. Je trouve que tu as manqué tout à fait de bonne foi.
Comment ? J'ai manqué de bonne foi ?
Certainement. Et ta fiancée aussi de son côté. Tu n'es pas autrement bâtie que tous les hommes, parbleu. Et ta fiancée ne diffère pas du reste du genre féminin. Tu devrais te montrer comme tu seras pendant le reste de ta vie. Ainsi du reste que tous les hommes occupés, rudes, distraits, grincheux, souvent emportés, violents même. Nous sommes tous comme cela dans la vie. Elle est si courte, la vie. Une fois mariée, est-ce qu'on a du temps à perdre en manières ? Certainement, parbleu. Des bonnes intentions, ça ne prend pas de temps. On en a tant que l'on veut. Mais les rapports journaliers, la vie enfin, c'est là que je t'attends. De même, une fiancée, pour que le voyage de fiançailles constitue un essai vraiment loyal de la vie conjugale, devrait tout de suite se montrer futile, légère, contrariante, souvent revêche, portée à la domination, etc., etc. Enfin, telle qu'elle sera plus tard dans le ménage. Alors on se juge franchement, et l'on décide en parfaite connaissance de cause si la vie commune est possible. Attention, quand je serai la femme de ce monsieur, je l'aurai toujours devant moi. Bigre, quand je serai le mari de cette dame, songeons-y, ce sera à perpétuité. Voilà les sages réflexions que les personnes raisonnables doivent faire. Georges se mit à rire. Est-ce que tu me peindrais l'éminente doctoresse Bardoz et la sénatrice Coupard de la Sarthe avec les mêmes couleurs ? Demanda-t-il à son père. Pas tout à fait. Si je les ai distinguées, c'est qu'elles sont de vraies exceptions. Et puis, elles seraient si occupées elles-mêmes. Enfin, concluons. Tu persistes vraiment ?
Je persiste à voir le bonheur de ma vie dans l'union avec... Bon, pas de phrase. C'est ton ancêtre l'artiste, le poète, qui te travaille. Laissons-le dormir. Nous verrons. Mais avant de donner mon consentement définitif, je veux étudier ta fiancée. Tu connais mes principes. Pas de femme inoccupée. Je propose à Mademoiselle Lacombe d'entrer à mon grand laboratoire, section de recherche. Elle travaillera sous mes yeux, à côté de toi. Ne crains rien, pas de surmenage, un petit travail doux. Et entre-temps, vous montrez votre maison, et nous causerons ménage quand le nid sera achevé.
Georges, comptant bien abréger le plus vite possible cette dernière période d'épreuve, se déclara satisfait de l'arrangement et porta la proposition de son père à Estelle. Tout fut vite entendu. D'ailleurs, Philox Loris n'eut qu'un mot à dire au phare alpin pour faire passer M. Lacombe au bureau de Paris de cette administration. Les parents d'Estelle purent venir habiter Paris, au grand plaisir de Madame Lacombe, qui voyait ainsi se réaliser un de ses rêves. Georges Loris et Estelle s'occupaient de leur installation future avec Madame Lacombe, mais sur les idées de Philox Loris. Celui-ci négocia en quelques jours l'achat pour son fils, au centre de l'ancien Paris, sur les hauteurs de Passy, d'un petit hôtel que désirait céder pour s'installer dans un vaste domaine dans le Midi, un banquier milliardaire d'Australie qui venait de réaliser dans les bureaux du Nouveau Monde un crack fabuleusement fructueux et qui voulait, avec l'immense fortune récoltée dans sa magnifique opération, fonder assez loin des désagréables criailleries des anciens actionnaires et dans un pays plus aristocratique que la terre australienne, une puissante famille seigneuriale. Ce richissime ex-banquier, Arthur Pigott, traitant M. Philox Loris en homme digne de le comprendre, exposa ses plans avec tranquillité quand il fit visiter son petit hôtel à son acheteur. Votre vieille aristocratie territoriale est morte d'inanition, illustre monsieur, ou elle achève de s'éteindre, dit-il. Soufflons donc dessus et remplaçons-la,
car il faut la remplacer, c'est le vœu de la nature. Vous savez bien qu'une aristocratie a son rôle dans la vie sociale, et qu'on n'en a pas plutôt jeté une à terre. Vos révolutions l'ont prouvé, qu'une autre apparaît. À l'origine de toutes les grandes et hautes familles, monsieur, que voyez-vous? Un fondateur malin, plus riche, et par conséquent plus puissant que ses voisins. Je dédaigne de rechercher comment il a ramassé cette fortune. Il l'a, c'est le principal. Les historiens passent assez légèrement là-dessus, comme détail négligeable. Des chevauchés la lancent au poing en pays ennemi, fit Monsieur Philox Loris, la conquête de quelques territoires. Autrement dit, l'expulsion violente ou l'oppression des occupants, venus jadis de la même façon. Autrement dit, des rapines de soudards, de brutales rapines, continua Monsieur Pigott, hideuse violence des temps barbares. Eh bien, qu'on nie encore le progrès. J'ose prétendre que plus tard, les historiens qui regarderont à l'origine de la noble famille fondée par moi en mon duché sur la Dordogne, où j'aurai, j'espère, le plaisir de vous avoir à mes grandes chasses, distingueront autre chose. Pas de violence, pas de soudards brutaux. Ils pourront dire « L'ancêtre Pigott, le fondateur, fut tout autre chose qu'un vulgaire Montmorency. Il fut un doux malin, un combattant de l'intelligence, qui sut prélever sur des créatures inférieures la dîme de l'intelligence. » 200 000 ou 300 000 actions de 5 000 francs, n'est-ce pas, dans vos dernières affaires? Plus quelques petites choses pour compenser les frais très sérieux. Je reprends. Voici ce qu'ils diront, les historiens. Il sut prélever la dîme de l'intelligence et vint, apportant la richesse en notre belle province, fonder une illustre maison. Planter l'arbre seigneurial dont les rameaux s'étendent aujourd'hui si largement, abritant nos têtes sous leur ombre, et contribuer puissamment au relèvement des principes d'autorité et des saines idées de hiérarchie sociale trop longtemps ébranlées par nos révolutions. Voilà, ainsi se fonde la nouvelle aristocratie. Et Monsieur Pigott avait raison. Sur les ruines bientôt déblayées de l'ancien monde, une aristocratie nouvelle se fonde. Que devient l'ancienne? Les vieilles races en décadence semblent fondre et disparaître de jour en jour avec plus de rapidité. Nous voyons leurs descendants appauvris, éloignés par la défiance des masses des affaires publiques, peu aptes à la pratique des sciences, impropres aux grandes affaires industrielles et commerciales, tirer la langue dans leurs châteaux délabrés, qu'ils ne peuvent entretenir et réparer, ou végéter dans de misérables petites places sans ouverture d'avenir. Leurs terres, leurs châteaux, et leurs noms même avec, s'en vont à la nouvelle aristocratie, aux seigneurs des nouvelles couches, aux Crésus de la bourse, enrichis par l'épargne des autres, aux notabilités de la grande industrie ou de la productive politique. Et, à côté de ces illustres débris heureux d'obtenir de maigres emplois en des bureaux de ministères ou d'usines, où le sang actif des anciens chevaucheurs croupit dans une stagnation lamentable, nous voyons tels grands industriels, gigantesque coffre-fort, planter le drapeau de Plutus sur les anciens domaines de l'ex-noblesse, reconstituer peu à peu les vastes fiefs d'autrefois sur des bases plus solides. Quelques exemples, en outre de celui fourni par le milliardaire Pigott. Le célèbre marquis Marius Carpoules, fondateur d'une centaine d'usines, organisateur de syndicats accaparant toutes les féculeries et distilleries d'une immense région. Avec ses bénéfices, dont il sait à peine le compte, Marius Carpoules a peu à peu aggloméré un noyau de vastes domaines, comprenant l'étendue d'un département, et récemment érigé en marquisat. Ajoutons bien vite que parmi les simples petits commis d'une de ses agences, Marius Carpoules compte un duc authentique, descendant des rois de Sicile et de Jérusalem, et 3 ou 4 pauvres diables couverts de blasons, dont les pères ont eu terre et château, gardés casque en tête, des marches de frontières et arrosés de leur sang tous les champs de bataille de l'ancienne France. Monsieur Jules Pomard est non moins célèbre que le marquis Marius. Lancé sur le terrain giboyeux de la politique, Monsieur Jules Pomard n'est pas de ceux qui restent bredouilles. Il a eu des hauts et des bas. Accusé jadis de trafic et de malversation, mais amnistié par le succès, il sait, après avoir purgé quelques petites condamnations, taillé dans sa province un véritable petit royaume où il tient tout, dirige tout, commande à tous et plane sur tous du haut de sa sereine majesté d'homme arrivé, qu'encadre noblement un grand château historique ayant fait partie du domaine royal, château dont il compte bien faire porter le nom à ses héritiers. Voici une illustration plus haute encore. Monsieur Malbousquet, autre grand industriel, roi du fer et prince de la fonte, maître et possesseur de formidables établissements métallurgiques, propriétaire de tubes et de nombreuses lignes d'aéronefs, à la tête de 300 000 ouvriers et du plus titanique outillage qu'il soit possible de rêver. Immense réunion d'engins terrifiants, grinçants, tournants, virants, frappants, hurlant effroyablement en des usines monstres, colossales cités de fer aux architectures étranges, où les marteaux pilons géants s'élèvent comme d'extraordinaires monuments mobiles et féroces, parmi les ouragans de vacarme métallique et des tourbillons d'acre fumée, au-dessus de rouges fournaises attisées par des cohues d'hommes hâves et demi-nus, roussis, grillés et charbonneux. Le maître de ce royaume, véritablement infernal, n'a garde de l'habiter. Il domine de loin, il commande et dirige, loin de l'infernal mouvement, loin des rivières de fonte incandescentes et des hauts fourneaux soufflant des haleines de feu. Il règne sur ses esclaves de chair et de fer du fond d'un somptueux cabinet relié par télé au cabinet de l'ingénieur directeur de ses usines. Dans un castel resplendissant, grand comme Chambord et Couët réunis, élevé à coups de millions dans un site charmant avec un fleuve à ses pieds, filant vers la mer, et de belles forêts, sévèrement gardées, se déroulant aux divers horizons. À perte de vue, tout ici appartient à M. Malbousquet, déjà comte romain, devenu duc tout récemment, par la grâce du milliard. Dans cette terre érigée pour lui en duché par les chambres, tout est à lui, le sol et aussi les gens, tenus et bridés par mille liens. C'est pourtant le domaine actuel du roi du fer, le grand centre métallurgique, qui fut en 1922 le principal foyer de la révolution sociale et qui vit lors du triomphe momentané des doctrines collectivistes le plus complet bouleversement. Ici, pendant qu'une effroyable lutte éclatait à Paris, pendant que se déroulaient des scènes de sauvagerie épouvantable, où le peuple énervé et halluciné, dans l'impossibilité de réaliser les rêves insensés des révoltés et des utopistes, des naïfs farouches et des hâbleurs, accumulaient ruine sur ruine et se ruaient à la folie furieuse et à l'effondrement universel. Pendant ce déchaînement de tous les délires, dans le grand centre métallurgique saisi au nom de la collectivité, s'appliquaient à peu près pacifiquement les théories socialistes. Les meneurs, au jour du triomphe, avaient ici trouvé un organisme bien complet, en bon état de fonctionnement, et ils avaient pensé que tout devait continuer à marcher comme par le passé, et même beaucoup mieux, simplement par la bonne volonté de tous, moyennant la simple suppression des directeurs et des actionnaires, et le partage égal entre tous du produit intégral du travail de tous. Le programme était simple, clair, à la portée des moins larges intelligences, mais l'application, au grand étonnement de chacun, donna lieu pourtant dès la première heure à de rudes frottements. L'égalité des droits décrétés, la sainte égalité, pouvait-elle s'accommoder de l'inégalité des fonctions et des travaux? On laissait les ingénieurs à leurs travaux, forcément, parce que le simple manœuvre ne pouvait songer à prendre leur place. Mais les autres, bureaucrates, contremaîtres, chefs ouvriers, ne devaient-ils pas rentrer dans le rang? Comment procéder à la distribution du travail, avec toutes ces inégalités, qui semblaient apparaître pour la première fois aux yeux de tous? Personne ne voulait plus du travail rude, du travail dangereux. Chacun, naturellement, réclama le travail le plus facile et le plus doux, les postes les plus tranquilles. Dès le premier jour, les heurts violents se produisirent, les discussions éclatèrent et s'envenimèrent très vite. Au milieu des tiraillements, des désordres et même des grèves de certaines spécialités, les usines marchèrent quelque temps cas un cas, dévorant les stocks de minerais amassés et les fonds saisis dans les caisses. Puis, brusquement, tout s'arrêta. Les machines poussèrent leur dernier râle, les hauts fourneaux s'éteignirent, tout tomba dans une confusion épouvantable. le collectivisme mourait de son triomphe. Tant bien que mal, l'organisme qu'il avait trouvé en fonction avait encore marché quelques semaines, produisant, suivant les comptes rigoureusement tenus par les bureaux, tout à perte, pour diverses causes, par suite de l'immense gâchis d'abord, du labeur mal conduit et mollement soutenu pendant les heures de travail diminuées de moitié, et laissant, au lieu de fabuleux bénéfices à répartir, comme tous l'espéraient, un déficit à combler, gouffre énorme, s'élargissant d'heure en heure. 6 mois d'anarchie épouvantable, avec la tristesse amère des beaux rêves écroulés, les lugubres désespoirs, les colères impuissantes, avec la ruine, la fureur et la faim partout. Le grand centre industriel resta comme un immense tas de ferrailles inutiles, autour duquel peu à peu la solitude se faisait, et que les affamés abandonnaient en colonnes lamentables. Quand, après bien d'autres catastrophes, l'anarchie de Paris, s'éteignant peu à peu dans le sang des sectes socialistes qui s'entre-dévoraient, fut écrasée définitivement par un retour du bon sens, puissamment aidée par la force passée aux mains des meneurs satisfaits, gorgée des dépouilles de l'ancienne société, il n'y avait plus de désordre à réprimer dans le royaume du fer. Il n'y avait plus que des ruines. Édouard Malbousquet, jeune alors, ex-petit ingénieur des usines, riche de quelques bénéfices recueillis dans l'eau trouble de la révolution sociale, eut alors l'habileté de grouper quelques amis parmi les nouveaux capitalistes éclos dans la tourmente, et de racheter pour un morceau de pain jeté aux actionnaires survivants ces tristes ruines inutiles, et de tout recommencer. Le résultat le voici. Tout en haut, le puissant seigneur suzerain. Tout en bas, la tourbe des humbles vassaux. D'un côté, une haute personnalité politique, financière et industrielle, comblée de richesses, de titres et d'honneurs. Et, de l'autre, la noire fourmilière des travailleurs du fer, revenus au travail avec de la misère et de cruelles désillusions en plus. Notre haute civilisation scientifique, l'excès du machinisme, l'industrialisme écrasant l'homme sous l'engin, ou changeant cet homme, non pas en machine même, mais en simple fragment de rouage de machine, ont donc en définitive abouti à ramener le monde en arrière, et à créer au-dessus des masses travailleuses une nouvelle féodalité, aussi puissante, aussi orgueilleuse et aussi rude dans sa domination que l'ancienne, si ce n'est plus. Serfs des enfers industriels, rivés aux plus dures besognes, petits employés cloués à leur pupitre, petits ingénieurs, rouages un peu plus fins de la grande machine, petits commerçants, laminés et broyés par les gigantesques syndicats, paysans cultivant, suivant les nouvelles méthodes scientifiques, la terre des nouveaux seigneurs. Dites-nous si le sort des manants du Moyen-Âge, des siècles où l'on avait au moins le temps de respirer, était plus rude que le vôtre. Certes, la main humaine, même recouverte du gantelet de fer des hauts barons, le poing de la féodalité de fer était moins lourd que le marteau-pilon d'aujourd'hui, symbole écrasant de la nouvelle féodalité de l'or. Le petit hôtel acheté par M. Philox Loris à l'un de ses potentats de la finance et de l'industrie, avoisiné par d'autres hôtels d'un luxe babylonien, résidence urbaine appartenant à de non moins notables seigneurs, allait donc être transformé complètement pour le fils du grand ingénieur. Toutes les innovations, toutes les applications de la science moderne devaient y faire régner un confort scientifique absolument digne du siècle éclairé où nous avons le bonheur de vivre, et du grand Philox Loris lui-même. Il y avait naturellement très peu de jardins. Un simple cadre de verdure, sertissant les différents bâtiments. L'espace est si mesuré à Paris. Mais on s'était rattrapé sur les terrasses, les petites plateformes et les balcons suspendus, transformés en véritables forêts, en forêts vues par le gros bout de la lorgnette, avec des arbres nains japonais suivant la mode actuelle. Il n'y a pas que Paris qui soit étroit et resserré. On se sent tellement pressé aujourd'hui sur notre globe archi-plein, dans le coude à coude des continents bondés, qu'il faut tâcher de gagner un peu de place, de toutes les façons possibles, par d'ingénieux subterfuges. Voulez-vous des forêts ombreuses avec de vieux chênes aux ramures puissantes, tordant leurs racines comme un nid de serpent et lançant au loin de grosses branches à l'épais feuillage? Voulez-vous des pins fantastiques, hérissés de pointes et cramponnés à des blocs de rochers moussus? Voulez-vous des arbres exotiques, des forêts étranges, dominées par des baobabs monstrueux? En voici sur votre balcon, dans de jolis bacs de faïence japonaise. Voici sur votre véranda la forêt vivante en réduction, les géants nains, les arbres centenaires, les colas végétaux, maintenus par l'art inouï du jardinier de Yedo à des proportions de plantes d'appartement. C'est la forêt minuscule, mais c'est la forêt tout de même, avec ses fourrés touffus, ses dessous tapissés de bruyères naines, avec ses profondeurs mystérieuses qui vous donnent le vertige et le frisson des solitudes, avec ses rochers, ses ravins même, au-dessus desquels se dressent de vieux troncs dépouillés, tordus et déchiquetés par les siècles, ravagés par les ouragans. Ce sont de vastes paysages factices, absolument illusionnants, devant lesquels, en y mettant un atome de bonne volonté, on peut chercher la poésie du rêve, tout comme si l'on errait dans les quelques coins de nature sauvage qui nous restent, éparpillés ça et là par le monde, et sur le point de disparaître à jamais. Ne cherchez pas d'autres feuillets à Paris, en dehors de ces futaies factices, et de ces maigres jardinets entretenus à grand-peine autour des maisons riches. Le sol de Paris n'en peut guère produire, puisqu'il n'existe plus, puisque la vraie terre y a disparu, ou à peu près, remplacée par un lacis embrouillé de tunnels, de canalisations diverses, de tubes métropolitains réunissant les quartiers, de tubes d'expansion au dehors, d'égouts, de caniveaux, de conduits pour les innombrables fils des divers télés et des services électriques divers, force, lumière, théâtre, musique, etc. Entrecroisés à travers un massif de béton et de pierraille, où les racines des pauvres diables, que le malheur a exilés dans ce conglomérat rocailleux, saturé de fluides divers, ne peuvent, même en s'allongeant et s'échevelant outre mesure, puiser qu'une bien maigre nourriture. Mais si la villa parisienne de Georges Loris ne pouvait guère montrer d'autres verdures que les arbres comprimés et rabougris de ses forêts d'appartements, elle possédait une annexe un peu plus loin, dans les montagnes du Limousin, à 35 minutes de tube et 2 heures d'aéronef à peine. Une maison de campagne, petite mais commode, agréablement placée dans un fort beau paysage, à mi-côte d'une colline rocheuse, avec des arbres de proportions naturelles et des coins de véritables bois sous ses fenêtres. Par une heureuse idée de l'architecte, la partie supérieure de la maison, sorte de tourelle carrée dominant le corps de bâtiment principal, était mobile et pouvait monter, faisant cage d'ascenseur, jusqu'à la crête de la colline voisine, et stationner ainsi, pendant les belles journées, à 80 mètres au-dessus de la maison. De là, le pays se découvrait plus vaste, pittoresque et tourmenté, coupé de ravins, sillonné de rivières, et montrait au loin, sur des roches isolées, ou sur les différentes croupes de collines, 5 ou 6 ruines de vieux châteaux, et seulement, l'industrie étant encore peu développée dans la région, une 20aine de groupes d'usines fumeuses à l'horizon. Pour revenir à l'hôtel parisien abandonné par le banquier milliardaire, comme trop simple et ne convenant plus à sa haute situation, il n'en était pas moins un somptueux petit bijou d'architecture moderne en délicieuse situation. On jouissait d'une vue admirable et très étendue des loggias du grand salon du 6e étage au-dessus du sol, c'est-à-dire du premier, comme on a l'habitude de dire, maintenant que l'entrée principale d'une maison est sur les toits, à l'embarcadère aérien. De cette loggia, ainsi que des miradors vitrés suspendus aux façades, on apercevait tout Paris, l'immense agglomération quasi internationale de 11 millions d'habitants qui fait battre sur les rives de la Seine le cœur de l'Europe et presque le cœur du monde, en raison des nombreuses colonies asiatiques, africaines ou américaines fixées dans nos murs. On planait au-dessus des plus anciens quartiers, ceux de la vieille Lutèce, bouleversés par les embellissements et les transformations, par-delà lesquels d'autres quartiers plus beaux, les quartiers modernes, si étonnamment développés déjà, projetaient au loin d'immenses boulevards en construction. Là-bas, derrière les hauts fourneaux, les grandes cheminées et les coupoles de réservoirs électriques du grand musée industriel des Tuileries, se dressent, au centre du berceau de Lutèce, flottant entre les deux bras de la Seine, de la vieille lutèce agrandie et transformée, allongée, grossie, gonflée et hypertrophiée, les tours de Notre-Dame, la vieille cathédrale, surmontée d'un transparent édifice en fer, simple carcasse aérienne de style ogival comme l'église, portant, à 80 mètres au-dessus de la plateforme des tours, une seconde plateforme, avec bureau central d'aéronef omnibus, commissariat, restaurant et salle de concert de musique religieuse. La tour Saint-Jacques se montre non loin de là, surmontée elle aussi à 50 mètres, d'un immense cadran électrique, et d'une seconde plateforme autour de laquelle voltigent à différentes hauteurs les aérocabs d'une station. Des édifices aériens pointent très nombreux au-dessus des 100 000 embarcadères des maisons, au-dessus des toits où s'étalent de cime en cime de gigantesques réclames pour 1000 produits divers. On distingue d'abord les embarcadères des grandes lignes d'aéronefs omnibus, les wharfs d'aéronefs transatlantiques, ces constructions de toutes les formes et de tous les styles, monumentales, mais très légères, portées sur de transparentes armatures de fer. Le grand embarcadère central des tubes, plus massif, projetant dans toutes les directions des tubes, porté parfois sur de longues armatures de fer, ou traversant en tunnel les collines chargées de maisons. Puis bien d'autres édifices divers, plus ou moins turiformes, phares de quartier, commissariats et postes aériens pour la surveillance de l'atmosphère, si difficiles pendant la nuit, malgré les flots de lumière électrique répandus par les phares, embarcadères de grands établissements ou de magasins. Quelques quartiers apparaissent voilés par un treillis serré et embrouillé de fils électriques, qui semblent les envelopper d'une gigantesque toile d'araignée. Trop de fils. Ces réseaux courant en tous sens sont, à certains endroits, un obstacle à la circulation aérienne. Bien des accidents ont été causés par eux aux heures nocturnes, malgré l'éclat des phares et des lampadaires de toit. Et l'on a vu maintes fois des passagers d'aérocab foudroyés au passage, ou blessés et presque décapités par la rencontre d'un fil inaperçu. Tout près de l'hôtel Loris se montre le plus ancien de ces légers édifices, escaladant les nuées, construit jadis par un ingénieur qui pressentait la grande circulation aérienne de notre temps, l'antique et bien vénérable Tour Eiffel, élevée au siècle dernier, un peu rouillée et déversée. Cette vieille tour a reçu récemment, au cours d'une complète restauration bien nécessaire, de considérables adjonctions. Ces deux étages inférieurs sont insérés dans de magnifiques et décoratives plateformes d'une contenance de plusieurs hectares, organisées en jardins d'hiver, supportées par deux ceintures d'arcs de fer d'un grand style. Comme pendant, de l'autre côté du fleuve, montent et se perdent dans l'atmosphère des coupoles les terrasses et les pointes de Nuage Palace, le grand hôtel international aux architectures étranges, construit au sommet de l'ancien Arc de Triomphe, par une société financière qui a, par toutes ses splendeurs, ruiné deux séries d'actionnaires, mais qui, sur l'Arc de Triomphe, a elle vendu par l'État en un moment de gêne après notre 12e révolution, a superposé de véritables merveilles. Plus loin, au-dessus du bois de Boulogne, découpé en petits squares, s'élève Cartonville. Un quartier ainsi baptisé à cause de ses élégantes et vastes maisons de rapport, entièrement construites en pâte de papier aggloméré, rendues plus solides que l'acier et plus résistantes que la pierre aux intempéries des saisons, avec des épaisseurs bien moindres, ce qui économise la place. L'avenir est là. Dans la construction moderne, on n'emploie plus beaucoup les lourds matériaux d'autrefois. La pierre est à peu près dédaignée. Le pyrogranit en tient lieu dans les constructions monumentales, disposées en cubes fondus d'une bien autre résistance que la pierre et appliquées de mille façons à la décoration des façades. On n'a plus recours au fer que dans certains cas, lorsqu'on a besoin de supports solides, colonnes ou colonnettes. Et partout maintenant, le carton-pâte est employé concurremment avec les plaques de verre, murailles transparentes, qui laisse les pièces d'apparat des maisons se pénétrer de lumière. Les grands magasins, certains établissements comme les banques, sont maintenant construits entièrement en plaques de verre. L'industrie est même parvenue à fondre d'une seule pièce des cubes de 10 mètres de côté, à cloison intérieure pour bureau, et des belvédères également d'une seule pièce. De son petit hôtel si merveilleusement situé, M. Philox Loris veut faire un modèle d'arrangement intérieur. Le chef de son bureau d'ingénieur constructeur est à l'œuvre. Georges Loris donne ses idées et ses plans, qui sont un peu les idées et les plans d'Estelle, et par conséquent ceux de Madame Lacombe. Mais son père les met imperturbablement de côté, ou les modifie si complètement que Georges ne les reconnaît plus. N'importe, ce sera bien. L'embarcadère, à 12 mètres au-dessus du toit, est tout en verre, supporté par une gracieuse et artistique arcature de fer. Une coupole, surmontée d'un phare électrique, abrite 4 ascenseurs, desservant les appartements particuliers de monsieur et de madame, les appartements de réception et l'aile des laboratoires et cabinets de travail. Sur l'un des côtés de la plateforme de l'embarcadère débouche le grand ascenseur de service, près de la remise des aéronefs, haute tour rectangulaire sur un angle de la maison, ayant place pour 10 véhicules superposés, avec les ouvertures de ses 10 étages sur un des côtés. Les salons de réception sont tout à fait somptueux. Le précédent propriétaire en avait fait une galerie de photopeintures. Monsieur Philox Loris a remplacé les tableaux partis par 4 grands panneaux décoratifs. L'eau, l'air, le feu, l'électricité. Panneaux animés, vivants pour ainsi dire, et non froides peintures. Dans chacune de ces grandes décorations, par un procédé tout nouveau, autour de la statue allégorique de l'élément représenté, cet élément lui-même joue son rôle. Sur le panneau consacré à l'élément humide, l'eau ruisselle et cascade véritablement sur un fond de rochers et de coquillages, animé par des échantillons des plus remarquables habitants de Londres, des poissons vrais ou faux, vrais pour les races de petite taille, et dans le lointain, représentation minuscule, à mouvement automatique bien réglé, des plus formidables espèces. Le panneau consacré au feu est le pendant naturel de l'eau. Le feu est allégoriquement représenté par une figure à buste de femme sur un corps de salamandre à longue queue contournée. Autour de cette figure des flammes véritables, mais sans chaleur, des signes d'étincelantes volutes, et dans le fond, un volcan en éruption laisse couler des rivières de lave flamboyantes, dont on peut à volonté varier les couleurs. On devine quel magnifique thème les 2 autres éléments, l'air et l'électricité, ont pu fournir à l'artiste décorateur. Dans le panneau de l'air, au milieu de magnifiques effets de nuages, produits, avec l'inépuisable variété de la nature elle-même, par un procédé particulier, passent les habitants de l'atmosphère, de charmantes réductions d'aéronefs aux contours atténués par les vapeurs, absolument comme dans la nature. Tout ce panneau est admirablement réglé. Les aspects changent à volonté. On a de ravissants levers et couchers de soleil, et même de superbes effets de véritables nuits constellées d'étoiles, réduction de notre ciel nocturne au chemin azuré, poudré de sable d'or, comme disent les poètes. Quant à l'électricité, l'artiste mécanicien a tiré un bon effet décoratif de ces 6 curieux appareils producteurs et transmetteurs. Et M. Philox Loris a mis la grande plaque de télé comme motif central au-dessus de la figure allégorique. Nous voyons donc ici vraiment l'art de l'avenir. Après la peinture d'autrefois, les timides essais artistiques des Raphaël, Titien, Rubens, David, Delacroix, Carolus Durand et autres primitifs, nous avons eu la photopeinture, qui représentait déjà un immense progrès. Les photopeintres d'aujourd'hui seront dépassés par les photopictomécaniciens de demain. Ainsi l'art va toujours progressant. Est-il besoin de dire que le laboratoire cabinet de travail de monsieur et celui de madame, aménagé par les soins de monsieur Philox Loris, qui n'a pas craint de sacrifier une bonne demi-heure à en tracer de sa main le plan détaillé, sont pourvus de tous les instruments et appareils perfectionnés indispensables pour les hautes études. Madame Lacombe, qui suivait les travaux d'installation avec un intérêt que l'on comprend, pendant que sa fille était occupée au grand laboratoire Philox Loris, ne ménageait ni son admiration, lorsqu'elle la croyait légitimement méritée, ni ses critiques, quand il y avait lieu. Mais il ne lui était pas très facile de faire part de ses observations au père de son futur gendre. Monsieur Philox Loris, horriblement avare de son temps, avait chargé un simple phonographe de recevoir ses observations, auxquelles ce même phonographe répondait seulement le lendemain, quand il daignait répondre. Ma première opinion sur cet original de Philox Loris était la bonne, se disait Madame Lacombe, en se gardant bien cependant de penser tout haut. Ce Philox Loris est un ours. Enfin, ce n'est pas lui que nous épousons. Sa pauvre femme est une martyre. Heureusement, Georges est doux et charmant. Ma fille sera heureuse. Une chose inquiétait Madame Lacombe. Elle ne voyait pas de cuisine dans cette maison si bien montée. Elle se hasarda un jour à en témoigner son étonnement au phono du savant. La réponse vint le lendemain. « Une cuisine ?» s'écria le phono. « Y pensez-vous, chère madame ? C'est bon pour les rétrogrades et tardigrades réfractaires au progrès. D'ici 20 ans, il n'y aura plus de maison à cuisine que dans les malheureux hameaux perdus au fond des campagnes. L'économie sociale, bien entendu, proscrit les petites cuisines particulières, où l'élaboration des petits plats est forcément et de toute façon plus dispendieuse que l'élaboration en grand des mêmes plats dans une cuisine centrale. Il n'y aura pas plus de cuisine chez mon fils que chez moi. Nous sommes abonnés à la grande compagnie d'alimentation et les repas nous arrivent tout préparés par une série de tubes et tuyaux spéciaux. On n'a donc à s'occuper de rien. Économie de temps, ce qui est précieux, et de plus, très notable économie d'argent. Merci, fit Madame Lacombe. Vous me traiterez de tardigrade si vous voulez, mais je préfère notre petite cuisine de ménage, où je puis combiner des petites douceurs agréables quand il me plaît. Votre cuisine de la grande compagnie d'alimentation, tenez, ce n'est jamais que de la confection. Je vous assure, dit le phono, qui semblait avoir prévu des objections, que la cuisine est succulente et que les menus sont très variés. Ce ne sont pas de vulgaires marmitons, madame, ou d'ignorants cordons bleus qui préparent nos repas. Ce sont des cuisiniers instruits, diplômés, des ingénieurs culinaires ayant poussé très loin leurs études. Ils sont sous la direction d'un comité d'hygiénistes des plus distingués, qui savent ordonner nos repas selon les lois d'une bonne hygiène et nous fournir une alimentation rationnelle. Au lieu de plats combinés par des chefs sans responsabilité médicale, au hasard de l'inspiration, à tort et à travers, la compagnie fournit la nourriture qui convient à la saison, aux circonstances, rafraîchissante ou tonifiante, abondante en viande forte ou en légumes, quand elle le juge bon pour la santé générale. Et l'on a constaté parmi les abonnés une forte amélioration des gouttes, gastralgie, dyspepsie, etc. Le phono s'arrêta, semblant attendre des objections que Madame Lacombe, qui se défiait, se garda bien de formuler. Après un instant, le phono continua avec une nuance d'ironie dans la voix. Dans tous les cas, il est honteux pour des gens de notre époque de se montrer trop préoccupés des satisfactions de l'estomac. Cet insignifiant organe ne doit pas primer et opprimer le cerveau, l'organe roi, madame. D'ailleurs, ces questions sont sans importance. Vous savez bien que de nos jours, on n'a plus d'appétit. Madame Lacombe soupira. Bon, il est avare, je m'en doutais. Ce fut aussi M. Philox Loris qui se chargea d'engager le personnel nécessaire. Madame Lacombe fut terriblement surprise quand elle sut que ce personnel devait se composer seulement d'un concierge, d'un mécanicien breveté et d'un aide-mécanicien. Pas plus de femmes de chambre ou de valets de chambre que de cuisinières. « Heureusement, ma fille aura Gretli, » pensa-t-elle. M. Philox Loris avait chargé son phono de recevoir les candidatures des gens. Ce fut un véritable défilé pendant quelques jours. L'appareil enregistrait les déclarations, photographiait les candidats. M. Philox Loris, de cette façon, put fixer ses choix sans bavardage oiseux et sans perte de temps. Il eut à écarter de nombreux candidats ne pouvant justifier d'études complètes et bon à servir seulement dans la petite bourgeoisie, moins exigeante sur les titres. Il lui fallut même repousser aussi des polytechniciens dont certaines circonstances avaient entravé la carrière. « Quels sont vos titres ?» demanda le phonographe au candidat. « Parlez et veuillez remettre vos brevets. » Le concierge engagé avait, ainsi que sa femme, outre les meilleures références, les brevets des baccalauréats et sciences. Quant au mécanicien, il sortait dans les bons numéros de l'école centrale. On pouvait leur remettre en toute confiance la direction des forces électriques de la maison. C'est ainsi que fut organisée la maison destinée aux deux jeunes gens. Malgré les hauts cris de Madame Lacombe, Philox Loris tint bon et fit accepter son programme sans y apporter aucune modification. Il sut fournir la maison de tous les perfectionnements que la mécanique a de nos jours apportés dans la vie habituelle. Perfectionnements qui permettent de se passer des bonnes, des domestiques et du nombre personnel que nos aïeux devaient entretenir autour d'eux.